Père pardonne. C'est pour ça que on ne peut pas parler du pardon sans revenir à la base de celui qui s'est donné pour nous, la base de celui qui s'est donné pour que notre péché soit effacé. Qu'est-ce que c'est le péché? La Bible l'appelle une dette. Il y a un contentieux, un contentieux. Est-ce que vous avez un contentieux envers quelqu'un ou quelque chose en ce moment? Peut-être que vous en avez eu des contentieux. Hier, je parlais avec Élie, j'ai eu un contentieux une fois avec le service des impôts. Ça vous dit quelque chose? Et c'est allé loin, il a fallu se battre. Pendant 2 ans, j'ai dû me battre contre une inspectrice des impôts qui voulait absolument me faire payer quelque chose que je n'avais pas payé. Et ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai perdu. Eh oui. C'était un lourd contentieux. Et c'était un peu difficile. Dieu avait un contentieux, ou l'homme avec Dieu. Et Dieu envoie son Fils pour régler ce contentieux. Tous ont péché. C'est pas juste un mot, ont péché. C'est une rupture de relation. Tous ont péché. Ils sont privés de cette relation avec Dieu. Mais, nous dit l'épître de Paul aux Romains, ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors quand on va chercher qu'est-ce que c'est le pardon dans la parole, il y a des mots dans le texte original. Alors on n'a pas le temps d'y se pencher trop, mais le mot pardon, ça veut dire enlever, détacher, libérer, renvoyer. Vous voyez tout ce qui tourne autour de ce mot pardon. Et l'événement capital pour nous de la croix, c'est ce mot pardon. Nous étions les offenseurs, nous avions offensé Dieu par notre péché. Et alors, nous dit Paul toujours aux Romains, chapitre 5, verset 8, alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu a fait le premier pas vers nous. Christ est mort pour nous. Et vous savez que Jean nous dit, voyez de quel amour Dieu nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? Parce que c'est le socle, c'est la base. Le pardon, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Et il faut que de temps en temps, Dieu rafraîchisse ces choses dans ma vie. Me dise, te rappelles-tu où tu étais? Regarde où tu es maintenant. Et pourquoi tout ça? Parce que mon Fils s'est donné pour toi. Et Dieu doit me le rappeler quand c'est difficile, quand la relation est difficile, parce qu'on m'a fait mal, parce qu'on m'a offensé. Hier, dans le temps que nous avons passé, j'ai donné pas mal d'exemples réels de ce qu'on appelle l'offense, où quelqu'un a fait du mal à l'autre. Alors, ça peut être un mal passager, mais ça peut être aussi un mal profond. Et Dieu doit me le rappeler. Que le pardon divin, c'est la base de ma vie. Et je ne dois jamais l'oublier. Et il se passe que quand on est chrétien, avec le temps, on commence à banaliser. On banalise la mort de Jésus. On n'oublie pas, on la respecte. Mais on oublie ce que ça veut dire. Où était Dieu? Et où j'étais et ce qui s'est passé. Et alors on commence à parler à Dieu de tous ces problèmes, etc. Et on oublie cela. Et Dieu dit, ce que je te propose, c'est de devenir un reflet de ce que je suis. C'est pour ça que je voudrais vous dire que le pardon, alors là je parle à des chrétiens, si c'était des non-chrétiens, je ne le dirais pas comme ça. Le pardon, c'est quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qui est douloureux. C'est quelque chose qui fait mal. Pourquoi? Parce que tout en moi dit, mais c'est injuste. C'est pas normal. Il m'a fait mal. Il m'a trahi. Elle m'a trompé. Ils m'ont mis de côté. Et on peut faire la liste. Et Dieu dit, c'est vrai. Et c'était pareil pour mon fils. C'était pareil pour mon fils, pour toi. Et tout d'un coup, je m'arrête et dis, ah Seigneur, si c'était ça, alors Dieu dit, voilà ce que tu dois être. Vous savez ce que dit l'évangile de Luc au chapitre 6. L'évangile de Luc nous dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Alors moi, je pensais que c'était être gentil, être bon. Et puis je vais envoyer de temps en temps un chèque ou un virement à une œuvre chrétienne. Et puis je vais peut-être aller à la banque alimentaire. Et puis etc. C'est plus que ça, parce qu'il dit soyez. C'est le verbe être. L'être de Dieu doit devenir ton être. Et dans ta vie, tu vas commencer à marcher comme Jésus-Christ. Et alors, je regarde Jésus qui monte au Golgotha et je dis, oh, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Tout à l'heure, on va célébrer la scène. Et puis Dieu me dit, toi aussi, tu dois monter au Golgotha. Alors là, tout d'un coup, j'ai dit, ah non, ça c'est pas possible. C'est injuste. Je ne peux pas l'accepter. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Alors, lorsque nous regardons Christ qui monte au Golgotha, nous le voyons abandonner ses droits. C'est drôlement difficile, hein. Franchement, qui aime abandonner ses droits? Il abandonne ses droits. Il monte au Golgotha, il refuse de blesser en retour. Lorsque il va être arrêté, il y a un disciple, on sait que c'est Pierre, qui va prendre une épée. Enfin, c'est pas une épée à la Durandal, hein. C'était ce qu'on a, la Bible, c'est traduit dans épée, mais c'est plutôt un coutelas, on dirait. Et il va couper l'oreille, vous savez, du serviteur, du souverain sacrificateur. Et Jésus va dire, mais arrête Pierre. Alors, pardonnez-moi cette traduction-là. Arrête Pierre, c'est complètement ridicule, ton épée, là, ta petite épée. Tu sais ce que j'ai, moi, à ma disposition? Plus de 12 légions d'anges. Il abandonne ses droits et il refuse de blesser en retour. Alors, on pourrait presque s'arrêter là, dire on va pas plus loin. Regarde Jésus, c'est ça Jésus. Il abandonne ses droits, il refuse de blesser en retour et il ne réclame ni vengeance, ni punition. Et c'est là que tout d'un coup, je dis, là, c'est trop pour moi, je n'y arrive pas. Seigneur, c'est trop pour moi, je ne pourrai jamais arriver à ça. Et Dieu me répond, tu as raison, mon enfant, tu ne pourras jamais y arriver sans moi. Mais avec moi, tu y arriveras. C'est la vie de Jésus. Le pardon, c'est la démarche du Christ. Et si vous voulez lire des livres, écouter des messages, c'est super. Moi j'en ai lu des, je sais pas combien sur le pardon, j'en ai entendu énormément. En fait, ça se résume à cette expression. Le pardon, c'est vivre la vie de Jésus. Être disciple de Jésus. Sur le terrain. En théorie, c'est toujours facile. Sur le terrain. Alors, vous savez que je suis d'origine arménienne, vous savez, avec le nom que j'ai un drôle de nom, un peu bizarre, et toute ma vie, on m'a dit, vous avez un drôle de nom. Je sais pas, le temps va passer, permettez-moi de vous raconter une petite anecdote, parce que c'est pas toujours facile, ça, pour nous détendre un petit peu. Un jour, puisque j'étais à l'Eau-Vive Provence, nous avons un comité en Angleterre, nous partions en avion en Angleterre, et voilà qu'on arrive à l'aéroport, à Marignane, et on lui dit, l'avion est en panne. Donc, on vous propose l'avion pour Londres est en panne, de prendre un autre avion sur Paris, puis à Paris, à Londres. Pas de problème, on prend notre avion et on arrive à Paris, à Orly, et on nous dit, voilà, il est telle heure, dans 1h30, vous devez vous mettre, venir là pour le nouvel avion. Alors, 1h30 après, on est là, il y avait une hôtesse de l'air, très polie, très gentille, bien habillée, j'allais dire, sentant très bon, et elle dit, voilà, les gens n'ont pas pu prendre le premier avion, je vais faire un appel nominatif pour être sûr que vous êtes bien là. Elle commence avec la lettre A, B, C, D, et mon nom commence par K. Et puis elle lit tranquillement, les gens disent « oui, ici, oui, présent, oui ». Et puis elle arrive, et tout d'un coup elle fait « et elle bute. Et moi j'étais là-bas au fond, je dis « Kouyoum Djian ». Elle a rougi, elle m'a dit « oui, c'est ça ». J'étais habitué à ça. Voilà. Le pardon, c'est la démarche du Christ. Pardonner, c'est faire grâce pour un tort qu'on nous a causé. Un tort, c'est suivre Christ. C'est-à-dire quand je pardonne, je vais abandonner mes droits à vous blesser. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je suis blessé? On l'a expliqué hier. Hein, hier, on a expliqué que dans ces relations, on est blessé obligatoirement. Ça fait partie de la vie. Et quand je suis blessé, je vais blesser en retour. Quand je suis frappé, je vais frapper en retour. Et c'est comme ça que la guerre commence entre les individus, entre les groupes familiaux, entre les pays, entre les ethnies. Et là, tout d'un coup, je vais abandonner mes droits à vous blesser. Et l'offense, ça touche toujours notre relation. Alors, j'aimerais vous dire aussi que nous pouvons être tour à tour offensés et offenseurs. Et on l'est tous. Une fois, je suis blessé, mais une autre fois, je vous blesse. Et c'est pas parce que je dois accorder le pardon que je ne peux pas demander pardon. Que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5? Ça, c'est très difficile à admettre. Il nous dit, si tu présentes ton offrande à l'autel, là, nous y sommes à l'autel, et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi ou ta sœur. Mais pourquoi il a quelque chose contre moi? Pourquoi il aurait quelque chose contre moi? Est-ce que j'aurais fait quelque chose qui ne convient pas? Est-ce que je l'aurais blessé? Est-ce que je lui aurais fait mal? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Alors il dit, c'est dur. Vous savez, la Bible, elle est dure. Hein, laisse tomber tes cantiques, laisse tomber ta louange, laisse tomber tes airs, ta prière, etc. Et puis va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors peut-être cet après-midi, on parlera de la réconciliation, c'est pas tout à fait le pardon, mais ça veut dire va d'abord chez ton frère. Je t'ai blessé, je t'ai fait mal, j'ai prononcé une parole qui t'a touché. Ça vous est jamais arrivé ça? D'être blessé par une parole? Pourquoi la Bible dit que la langue, c'est un venin? Elle est pleine de venin. Parce qu'avec les mots, on peut tuer quelqu'un. Alors, j'ai dit du mal de toi. J'ai parlé dans ton dos, etc., etc. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Ça, c'est l'offensé, l'offenseur. Alors, je voudrais, je voudrais pas que ce soit trop long non plus, parce que quand on écoute quelqu'un, au bout d'un moment, on commence à être fatigué. Mais j'aimerais juste que vous reteniez de cette journée ou de ce week-end que le pardon, c'est véritablement le point le plus important de notre vie. D'ailleurs, qu'on soit chrétien ou non chrétien, mais à plus forte raison si on est chrétien. point le plus important, parce qu'il peut tout bloquer dans nos vies. Je vais en parler. Il peut te bloquer, tu n'avances plus. Et parfois, il y a des gens qui sont allés chercher loin, ils sont allés voir le pasteur, ils sont allés voir des gens reconnus dans le ministère. Oh, j'ai un problème, je suis bloqué dans ma vie, ça n'avance pas avec le Seigneur. Je ne suis pas heureux, je n'ai plus de joie, je n'ai plus de paix. Et alors, on commence à chercher, à chercher, à chercher, à chercher. Et puis peut-être qu'un jour, quelqu'un qui est vraiment inspiré va dire, mais attends, est-ce que ce n'est pas parce que tu n'as pas pardonné, tu n'as pas accordé le pardon? Alors, avant d'arriver au pardon, vous avez compris que le pardon, c'est pas à la légère. On pardonne pas comme ça, parce que parfois on dit, on doit pardonner. Ben non, on doit pas pardonner comme ça. Et parfois, quelqu'un dit, je ne peux pas pardonner. Et je lui réponds, je te comprends, mon frère ou ma sœur. Alors, on va vers le pardon. Mais si vous voulez véritablement avancer avec le Seigneur, ce point doit être fondamental dans votre vie. On en a parlé hier. Peut-être que je dois pardonner à mes parents qui ne sont plus là. Parce que avec mes parents, c'était pas facile. Vous savez, il y a des familles où ça se passe super bien, hein. Et soyez bénis si vous avez une famille où ça s'est passé super bien avec vos parents. Il y a des familles où c'est compliqué, très compliqué. Et je vous ai parlé hier de cette fille, c'est une histoire vraie, cette fille qui s'est pas mariée pour garder ses parents. Elle était gentille, hein. Elle a sacrifié sa vie pour garder ses vieux parents, puis la maman est morte et le papa est mort. Et au moment où le papa est mort, ses yeux sont ouverts, il y a une amertume, plus encore, une haine qui est montée dans son cœur. Parce qu'elle a dit, mes parents ont sacrifié ma vie. Je n'ai pas pu me marier, maintenant je suis trop âgée, je suis seule à cause de mes parents. C'est la réalité. Vous savez, les chrétiens, parfois on est un peu des bisounours. Vous voyez pas? On veut pas regarder les choses en face. J'en dirai quelques mots sur le déni. On veut pas parce qu'on est chrétien. Alors, vite, 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 effaçons. Non. Quand Christ monte à la croix, il regarde la croix en face. Il dit pas, c'est rien. Il regarde. Alors, il y a des étapes pour arriver vers le pardon. La première étape, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire reconnaître exactement ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà ce que tu m'as fait. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Et à ce moment-là, je suis touché. Quelqu'un a dit que le mal, l'offense, on appelle l'offense, c'est comme un hameçon qui est dans notre doigt. Un hameçon. Et il dit, si vous voulez, bon, je suis pas pêcheur, mais mon beau-père était un grand pêcheur à la ligne. Hein? Si le hameçon est dans ton doigt, que tu veux enlever le hameçon, dit la personne, si tu tires brutalement, tu vas avoir quelques problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enfoncer le hameçon pour pouvoir l'enfoncer et donner un mouvement pour pouvoir l'enlever. Ça veut dire, regarde, reconnais ce qui s'est passé et dis, voilà exactement ce qui s'est passé. J'ai vécu ça, j'ai beaucoup souffert. J'ai vécu ça, je me suis senti humilié. J'ai vécu ça et pour moi, ça a été terrible, une trahison invraisemblable. Et c'est quelque chose d'incroyable. Alors parfois, on ne veut pas enfoncer le hameçon. On ne veut pas parce que on dit ça va faire mal. Alors on met en place toutes sortes de mécanismes. Hein. Les psys, vous savez comment ils appellent ça? Ils appellent ça, et ça se comprend bien, des mécanismes de défense. Je ne veux pas souffrir parce que parfois il faut regarder le mal qu'on m'a fait en face. Et ça, c'est très dur. Parfois, c'est insupportable. Alors, je vais mettre des mécanismes en disant, c'est pas grave, ça s'excuse, ça se comprend, le pauvre, la pauvre, d'où il vient, vous savez, son arrière-grand-père, il a eu des problèmes qui se sont transmis à son grand-père, à son père, il subit les générations, et on noie la chose. J'allais dire, on noie le poisson. Ben, si il y a l'image en hameçon, on peut noyer le poisson. Hein? Voilà. Au lieu de dire, voilà ce qui s'est passé. Personne ne peut pardonner sans dire, voici exactement ce qui s'est passé. Que ce soit pour un individu, que ce soit pour une nation, que ce soit pour une ethnie, dire, voici le mal qui m'a été fait. La première chose qu'on doit faire, c'est de reconnaître la chose, le reconnaître. Ensuite, il faut sortir de ces fausses conceptions que nous avons du pardon. Oublier, on va oublier. Non, on va pas oublier. Parfois, on enterre. Alors, dans les mécanismes de défense, quand le mal est trop violent, il y a une sorte de Dieu nous a donné un moyen formidable, c'est que le cerveau va disjoncter, il y a quelque chose dans le cerveau qui va disjoncter, on va oublier parce que c'est trop dur. Mais on va pas l'enfouir, ça se fait tout seul. Et puis un jour, quand le temps est arrivé, les choses vont remonter à la surface. C'est pour ça que beaucoup de filles et de femmes qui ont subi le viol, par exemple, parfois ne se rappellent rien du tout, parfois ne disent rien du tout, parce que c'est insupportable. Il y a un moment dans leur vie, elles se sentent mal. Je me sens très mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, on va commencer à chercher, à creuser et voir ce qui s'est passé. On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Et je vais vous dire que le pardon, ça va aider notre mémoire à guérir. C'est une parmi les bonnes choses du pardon. Alors, on ne va pas nier, on ne va pas excuser. Mais il y a encore une autre étape à aborder. Quand on a reconnu les choses, quand on les a regardées en face, alors il faut, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand on a été, vous savez, trahi? Quand, par exemple, une femme est abandonnée par son mari. Je pense à un autre exemple là, il y a beaucoup d'exemples d'une femme qui, le matin, s'était accrochée avec son mari, s'était disputée avec son mari. Et quand elle revient du travail, à midi, elle voit une enveloppe sur la table et le mari a écrit de toute façon, je ne t'aime plus, j'aime quelqu'un d'autre, donc je te quitte. Point. C'est dur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand on est trahi, quand on est abandonné? Hier, je vous ai cité, j'ai l'article ici, hein, je vous ai cité cet exemple absolument invraisemblable, je dois l'avoir par là, de cet article de journal où cette fille à Aix-en-Provence, vous vous rendez compte, sa mère à la naissance l'a abandonnée, à la naissance, devenue, on va dire, à peu près adulte, je crois qu'elle avait 17-18 ans, on va dire adulte, toute sa vie ça l'a poursuivi, une haine profonde l'a agitée, et je vous l'ai lu l'article hier. Si bien qu'à un moment, elle a dit « Maintenant, je vais faire payer ça à ma mère. » Et avec son compagnon et un autre gars, elles sont allées d'abord tabasser la mère. Et ensuite, la mère est allée à l'hôpital à cause de ça. Les pompiers sont arrivés, l'ont emmenée à l'hôpital. Ils sont retournés à l'hôpital. Ils sont débrouillés de la tirer de l'hôpital. Ils l'ont amenée, ils l'ont tuée. Et la fille qui était enceinte, a dit « C'est pas suffisant, il faut la brûler. » Et qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit même? Cette fille a accouché. Rendez compte le nœud, le paquet de nœuds. Il est normal qu'on crie vengeance, justice. Je veux que ce soit juste. Et beaucoup de gens croient que le pardon, c'est dire, ah non, ben, on efface tout, il s'est rien passé. Pas du tout. Quand Dieu nous regarde à travers Christ, il nous regarde en disant, ce sont des pécheurs, ils méritent la mort, il faut que justice soit faite, parce que Dieu est un Dieu juste, et il veut que nous soyons des enfants justes, et qu'on crie justice, et même qu'on crie peut-être vengeance. Et quand Dieu est là, de notre côté, Dieu est un Dieu de grâce. Il dit justice et grâce. Alors avant de pleinement accorder le pardon, on va d'abord dresser l'acte d'accusation. Avez-vous déjà fait ça? Cet après-midi, on aura un petit moment de partage. Hein? Avez-vous déjà fait ça? Tu t'assieds et le Seigneur touche ton cœur et tu écris. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà à qui j'en veux. Voilà pourquoi je lui en veux. Je le déteste. Vous n'avez jamais lu certains psaumes qu'on appelle des psaumes d'imprécation qui nous mettent un peu mal à l'aise quand même. Seigneur, brise les dents de mes ennemis. Seigneur, casse-leur la tête. Ouh là là, vite, vite, vite. Je préfère l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que ces psaumes soient écrits? Pour que nous soyons vrais. Pour dire, c'est très dur. J'ai beaucoup souffert. J'ai eu mal. Parfois, c'est des petites choses. Parfois, ce sont des choses importantes. Et voici mon acte d'accusation. On m'a poursuivi. On m'a fait beaucoup de mal. Et maintenant, j'exige réparation. Et donc, je l'écris sur le papier. C'est l'acte d'accusation. Dans l'Épître aux Colossiens, il est dit que Christ a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. C'est quoi ces ordonnances? C'est l'acte d'accusation. Tu étais condamné, 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 j'étais condamné. Christ a pris l'acte d'accusation. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il l'a mis dans sa poche? Et tous les jours, il le ressort? Non, il a pris l'acte et il est allé à la croix. Et que dit la parole? Il l'a éliminé, cet acte, en le clouant à la croix. Si tu veux vivre le pardon, il faut prendre l'acte d'accusation et puis il faut aller à la croix. Et là, tu vas décider de ce qui va se passer. Je vais vous donner trois pistes et après je m'arrêterai parce que ça fait long et je voudrais trois pistes concernant cette démarche de pardon. Mon vœu, c'est que vous compreniez ce que pardonner, c'est être disciple de Jésus. Et un disciple de Jésus ne pardonne jamais à la légère. Rappelez-vous ça. Nous, on croit qu'être disciple de Jésus, c'est dire « Ah non, non, c'est pas grave. » Non, non, un disciple de Jésus ne pardonne jamais à la légère. Il reconnaît le mal qui a été fait. Il écrit l'acte d'accusation. Et il dit, tu m'as fait mal. Et j'aimerais dire aussi pour quand nous faisons mal, nous, parce qu'on est, on fait mal aussi. On est des deux côtés. À un moment, il faut aussi se lever et dire, je t'ai fait mal. Et je viens te demander pardon. Peut-être que je n'y arriverai pas tout de suite. Alors, je vous donnais trois mots, trois verbes qui vont nous introduire dans le pardon. Et cet après-midi, je vous parlerai de tous les bienfaits du pardon. Ah, ça fait du bien de pardonner. Voici pourquoi ça fait du bien de pardonner. Alors, le premier mot, le premier verbe que je voudrais vous laisser pour vraiment entrer dans le pardon, c'est le verbe accepter. Accepte de pardonner. Il y a une relation mystérieuse que je ne comprends pas toujours entre le pardon de Dieu et mon propre pardon. Écoutez ce que dit Christ dans Matthieu 6. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera plus vos fautes. Ça ne veut pas dire qu'on est perdu, hein. Ça ne veut pas dire que Dieu nous rejette. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu ne me pardonne pas mes fautes et que je reste avec mes fautes et que c'est sur mes épaules et que c'est toujours là et que ça revient et que ça revient encore. Alors que Dieu m'a dit, si tu marches comme un disciple, voici deux choses que tu vas connaître. Tu vas d'abord connaître la paix du cœur. Mais si Dieu ne pardonne pas tes fautes, il n'y a pas de paix du cœur. Et puis Christ a dit, je vais vous donner ma joie, la joie. Pas le rire, hein, la joie. Si tu ne pardonnes pas tes fautes, ton Père céleste va bloquer la joie. Et puis, vous vous rappelez, dans Matthieu 6, qu'est-ce qu'il y a dans Matthieu 6? Vous êtes des chrétiens de longue date. Qu'est-ce qu'il y a d'emblématique dans Matthieu 6? Il y a la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que quand je prononce cette prière, je viens devant Dieu et je dis au Père, « Père, tu vois, j'ai pardonné. » Or, je peux prononcer cette prière une fois, deux fois, dix fois, sans avoir jamais pardonné. Pardonne-nous. Et Dieu nous dit « pardonne ». Vous vous rappelez l'histoire de Joseph, hein, dans l'Ancien Testament, Joseph qui a été vraiment brutalisé par ses frères. C'est pas entièrement de sa faute, hein. C'est la faute à son père. Alors attention aux parents, hein. Parce que s'il y a du bisbis entre les enfants, c'est peut-être à cause des parents. Là, c'était à cause du père. Alors, c'était le chouchou de son père, etc., etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé les trois choses que nous avons vues et dont nous avons parlé hier. D'abord, du ressentiment. Ah, papa, il préfère toujours Joseph. Du ressentiment. Toujours Joseph. C'est le chouchou, c'est le favori. Ensuite, ce ressentiment qui reste là, il va se transformer en amertume. Et la couleur de l'amertume, c'est quelle couleur? C'est le noir, l'amertume. Ça se transforme. Et puis, pour finir, parce que rien n'est réglé, tout est là. Le ressentiment, d'abord, on a parlé de la colère, hein, la colère, ressentiment, amertume, et ça finit en haine. Et cette haine dit, regardez, il arrive, prenons-le, tuons-le. Et c'est pire que de l'avoir tué directement. Il le tue à petit feu. Ils le vendent à ces gars et il s'en va. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Et puis les années passent. Et comme nous disons, alors peut-être que hier soir, on a fait un jeu hier soir avec des textes. Il fallait dessiner l'expression. Et il y a une expression, la roue tourne. Alors je ne sais pas comment Élie l'aurait dessiné. La roue tourne. Alors on aurait peut-être pu faire une roue avec une flèche comme ça qui tourne. La roue de Joseph avait tourné. Il se retrouve à la tête du pays. Il a entre les mains tous les pouvoirs. Et d'un coup, il entend parler sa langue maternelle. Ça vous est déjà arrivé, ça? Nous avons un fils qui habite en Allemagne, à Berlin. Alors, on y va régulièrement quand on peut. Quand il n'y avait pas le Covid, on y allait. Et c'est très intéressant parce que tout d'un coup, vous entendez parler français à côté de vous. Et les gens, ils savent pas que vous entendez ce qu'ils sont en train de dire. C'est drôlement intéressant parce que ils comprennent pas. Et Joseph entend parler sa langue maternelle. Il comprend tout de suite. Il voit ses frères. Il aurait pu dire, ah, la roue a tourné. L'heure de la vengeance a sonné. Mais Joseph, c'est un homme, l'homme du pardon. C'est un type de Christ, hein. Et alors, non seulement il va, après toute une stratégie, il va accueillir ses frères, mais il est dit dans Genèse 45, au verset 15, c'est complètement fou, il embrassa tous ses frères. Waouh, il embrassa ses frères. Jésus, c'est pas possible. Et vous rappelez que quand Jacob va mourir, le père, franchement, ils étaient pervers, ces frères, hein. C'est des pervers. Non seulement ils ont été accueillis, pardonnés, etc. Ils sont arrivés, ils ont eu tout ce qu'il fallait. Et quand le père va mourir, que disent les frères entre eux? Notre père est mort, notre frère va se venger. Et c'est encore lui qui va dire, non, non, ne craignez rien, je ne me vengerai pas. Accepte de pardonner. dans la situation où tu es. Parce que le pardon, c'est un commandement de Dieu pour le royaume. Accepte de pardonner. Et quand tu vas pardonner, tu vas libérer l'autre. Deuxième verbe, c'est renoncer. Renonce à te venger. La vengeance, je vous ai lu cette expression là du Père Lacordaire. Si tu veux être heureux un jour, venge-toi. Ça fait du bien. Et si tu veux être heureux toujours, pardonne. Renonce à te venger. Pourquoi ? Parce que Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et quand on va vers la croix avec l'acte d'accusation, on n'y va pas pour dire, je pardonne, c'est... Non, on prend ça. On dit à Dieu, Seigneur, tu vois le mal qui m'a été fait. Alors maintenant, je te le remets et la justice, je te demande que ce soit toi qui la fasse. Ça veut dire, je ne fais pas justice moi-même, mais je m'adresse au Dieu de justice. Seigneur, fais justice. Je renonce à me venger. Et si je reste dans la vengeance, ma vie va être constamment orientée vers le passé. Je vais toujours être dans le passé. Voilà ce qu'il m'a fait. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Au lieu d'être dans le présent et dans l'avenir. Et puis, le dernier terme que je vais vous proposer, et je vais terminer par là, c'est libère. Libère. Et là, je reviens à Matthieu 18, ce qu'on a lu tout à l'heure. Libère. Le premier, il devait une somme énorme. Alors, la version du semeur nous dit qu'il devait, c'est déjà plus compréhensible, 60 millions de pièces d'argent. Et j'ai pas noté, j'avais une fois une équivalence en prix de journée. Vous savez, comme par exemple, on travaille à l'heure pour 25-30 euros l'heure, il y avait un équivalent, je l'ai pas noté, mais ça aurait été intéressant. Mais déjà, 60 millions de pièces d'argent, c'est pas mal, hein? Voilà. Et la seconde révisée nous dit que c'était 10 000 sacs de pièces d'argent, c'est pareil. Mais combien devait l'autre en face de ces 60 millions de pièces d'argent? Eh bien, c'est intéressant, il devait 100 pièces d'argent. 60 millions, 100. Eh oui, c'est ça, exactement. Et le maître, ému de compassion, va remettre la dette. Mais lui, ce serviteur, ne remet pas la dette. Alors le roi lui dit, je t'ai remis la dette et toi tu ne veux pas remettre la dette. Et voici la clé du pardon chrétien. Seigneur, c'est parce que tu m'as pardonné que je veux pardonner. Et là, on n'est plus dans les nuages spirituels. Là-haut, ô Seigneur, que tu es bon. Ô Seigneur, tu nous as pardonné. Ô Seigneur, tu es merveilleux. On est à ras de terre. Dire, Seigneur, voilà mon offenseur. Ce qu'il m'a fait. Maintenant, je lève les yeux vers toi. Et parce que tu m'as pardonné, moi, je veux pardonner. Le premier n'a pas voulu pardonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été livré au bourreau. Et longtemps, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de bourreau? Est-ce qu'il allait lui trancher la tête? Est-ce qu'il allait le torturer, le bourreau? Eh ben, un peu, oui. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce bourreau? Quand je ne veux pas pardonner. Et l'un des éléments que j'ai cru comprendre, c'était d'abord l'obsession. Être obsédé par, ne penser qu'à ça. Ça occupe mes jours, ça occupe mes nuits, ça occupe mes pensées. Je ne vis plus, je ne pense plus à rien d'autre, je n'avance plus, je suis complètement focalisé là-dessus. Je suis pris par le bourreau. Et le deuxième, c'est l'amertume. Hein. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'attention, l'amertume, c'est une plante qui se développe et qui peut infecter tout le monde. Et quand on est dans l'amertume, c'est pas marrant, c'est pas rigolo. Qu'est-ce qu'il a fait ce serviteur? Par son attitude, il a empêché le roi de lui faire du bien. Et parfois on dit, Seigneur, pourquoi tu me donnes pas ça? Pourquoi tu m'accordes pas cette joie? Pourquoi tu m'accordes pas cette paix? Pourquoi tu ne permets pas? Et Dieu me dit, ce n'est pas moi qui ne veux pas te donner, c'est toi qui m'empêches de te donner par ton attitude. Alors c'est pour ça qu'il dit, quand vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et tout d'un coup, le Seigneur, le Saint-Esprit, peut ramener à mon esprit quelque chose, une situation, un événement, une personne qui m'a fait du mal. Avec ma femme, nous avons dû pardonner. Nous pardonner, ça, c'est, j'allais dire, c'est courant. Hein, vous comprenez, hein, mari-femme, c'est courant. Hein, on se marche sur les pieds, ou bien ça, c'est pas rangé comme il le faut. Et puis tu fais toujours ça comme ça. Et puis patati, là, tous les couples savent ce que c'est. Mais nous avons dû pardonner à deux personnes. D'abord, quand nous sommes mariés, notre premier enfant allait arriver. Ça s'est très bien passé. La grossesse s'est bien passée. Et puis voilà que... Alors, ce matin, on parlait des téléphones de l'Antiquité. On parlait de l'Antiquité ce matin. Quand il fallait aller aux cabines téléphoniques, mettre des pièces, etc. Donc, c'était l'Antiquité. Hein. C'était une époque où il n'y avait pas de d'échographie et tout ça et tout ça. L'enfant s'est présenté à l'envers. Hein, à l'envers, par le siège. Et le gynécologue qui devait procéder à l'accouchement s'est entêté à vouloir faire sortir l'enfant. Ça a duré des heures entières. Moi, j'étais à côté de ma femme. Je reconnaissais plus ma femme. Tous les vaisseaux de son visage avaient sauté. Je reconnaissais plus. Et au bout d'un nombre d'heures invraisemblables, il poussait sur le ventre, hein. Et nous, on était jeunes, on savait pas, c'était notre premier enfant. On était loin de chez nous, on n'avait personne pour nous expliquer. L'enfant est sorti et il a été mis en couveuse. Et dans la nuit, l'enfant s'est étouffé et il est mort. 24 heures après sa naissance. Alors, ça a provoqué une première chose, un état de sidération chez moi. Il m'a fallu, combien de temps ? 15 ans. Pour que j'accepte de revenir en face de ce mal qui m'avait été fait. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 15 ans? Je prêchais, je priais, je chantais, je faisais l'évangélisation, mais il y avait dans ma vie un fardeau, 15 ans. Et à la maison, puisque nous sommes tous concernés, il n'était jamais question de ça, qu'on a eu un enfant qui est mort. Jamais parlé. Maintenant, nous avons trois garçons qui sont arrivés après. Nous n'en parlions jamais. Et avec ma femme, nous n'en parlions jamais. Nous sommes retrouvés un jour en Suisse. Oui, quand l'enfant est mort, les médecins nous ont dit, vous voulez faire quoi? Une cérémonie religieuse? Et nous étions en état de sidération. On dit, non. Et c'est fini. L'enfant n'a jamais existé. Nous sommes retrouvés dans le cimetière, là-bas où nous étions, un jour, pour l'enterrement d'une amie, une jeune amie qui est morte du cancer. On était très tristes, c'était une amie très proche. Et tout le monde remontait le cimetière, et nous ne voulions pas parler avec les gens et tout, nous restions en arrière. Et on passe devant un grand monument, et ma femme me dit, notre fille est là. Je dis, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Vous savez ce que c'est? C'est encore ce monument? C'est là où on jette les gens qui meurent, on ne sait pas qui c'est, etc. Une fosse commune, mais actuelle, c'était une fosse commune dans le cimetière. Et ça m'a fait un choc. Ça nous a fait un choc. Alors on est rentré à la maison et ma femme m'a dit, là, il y a quelque chose à faire. D'abord, pardonner au médecin qui a commis une grave erreur. Parce qu'il n'est pas pris, il est parti, lui, hein. À cette époque, il n'y avait pas les psys, tout ça. Il a fallu pardonner un médecin. Et puis ensuite, comment on fait quand quelqu'un est parti et qu'il est mort? Et on a dit, notre enfant, on l'a jeté. On a jeté notre enfant dans la fosse commune. Alors, on a des excuses, mais on l'a jeté. Et ma femme m'a dit, on va écrire à notre enfant. Oui, mais elle est morte. Et on va pas entrer en communication avec notre enfant, évidemment. Et on va écrire. Alors, on lui a écrit, Anne, et on lui a dit, on te demande pardon de t'avoir, on n'a rien fait. Et qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a écrit? Eh bien, on a dit, cette lettre, on va la prendre et on va la donner au Seigneur. Seigneur, toi, cette lettre, on peut te la donner et tu peux t'en occuper. Vous voyez, quand quelqu'un est parti, voilà, comme ça, et on s'est soulagé d'un fardeau. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, il s'est passé que on a été soulagé. On a dit, mais on est soulagé. Et nos autres enfants, nos fils, et c'est pas très vieux, ça date quelques années, c'est pas très vieux. On a dit, on va écrire à nos enfants. Alors, on a envoyé un mail en disant, nous allons vous envoyer un courrier par la poste très important. Alors, nos enfants, ils ont répondu en suggérant tout ce qu'ils risquaient de recevoir. Qu'on avait gagné au loto, que je sais pas trop quoi, qu'on allait déménager, qu'on allait changer de maison. Et puis, on leur a écrit, voilà, nous ne sommes pas sûrs que vous soyez au clair, cet événement était resté secret dans les ténèbres. Et nous aimerions que vous sachiez clairement que vous avez eu une sœur et que elle est partie. Et comme ça, on est dans la lumière. Vous voyez ce que je veux dire par là? Alors, je termine là, mes amis, parce que j'ai déjà parlé longuement. Je termine. Le Seigneur nous dit, que veux-tu dans ta vie? C'est entre tes mains. Parce que le pardon, c'est une question d'abord entre nos mains de volonté. Que veux-tu? Et quand je dis de volonté au moment où le pardon est prêt, au moment où le pardon est propre. C'est-à-dire que peut-être il me faut encore du temps. Je n'y arrive pas. C'est trop difficile. Et le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas, mon enfant. Le temps viendra. Mais reste avec moi. Regarde, mon fils est mort pour que je te pardonne. Est-ce que toi, tu veux pardonner? Et j'aimerais vous laisser ce message ce matin. Dieu me dit, je t'ai pardonné. Est-ce que toi, tu veux me pardonner? Cet après-midi, je vous donnerai toutes les bonnes conséquences du pardon. Je voudrais juste prier avec vous maintenant, avant de laisser la place à Élie. Et on va rester dans la prière. Et je voudrais vous proposer que on va prendre la scène. La scène, c'est le pardon de Dieu. Que pendant qu'on prenne la scène, vous reveniez sur vous-même en oubliant ceux qui sont autour de vous et de faire le point avec Dieu. À qui dois-je pardonner? Ou bien, est-ce que je dois demander pardon à quelqu'un pour le mal que je lui ai fait, pour l'erreur, pour les paroles? À qui dois-je pardonner? Parce qu'on m'a fait du mal et on m'a blessé. Je veux être un disciple de Jésus et je veux pardonner. Merci pour Jésus. Merci parce que ton pardon, tu l'as payé très cher, Seigneur, très cher. Et nous rebellons contre ça. Mais ce matin, tu nous dis, pardonne.